Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire que peut-être vous pensez déjà connaître. L'histoire du japonais cannibale. Issei Sagawa, qui en juin 1981, à Paris, tue René Hartveld, une étudiante néerlandaise, et commence à la dévorer. Vous la connaissez, mais vous avez oublié les détails, j'en suis sûr. Or, ce sont les détails qui font le sel de ce genre d'histoire. Je l'ai écrite en m'appuyant sur le livre de Patrick Duval chez Stock, « Le japonais cannibale ». La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous emmène dans le bois de Boulogne à Paris, un soir de juin 1981, près du lac. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y a un tout petit monsieur là, juste devant, avec une tête de chinois, ou plutôt d'ailleurs de japonais, qui s'approche du lac avec un chariot à roulettes. Mais quand je dis petit, c'est vraiment petit, hein. Il doit pas faire plus d'1,50 m. Qu'est-ce qu'il a sur son chariot à roulettes? Des valises? Deux énormes valises? Mais qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il va jeter les valises à l'eau. Ah, il a du mal. Ah, il y a des gens qui l'ont vu. Il n'y a pas que nous qui sommes intrigués. Bonjour, monsieur. Tout va bien?
Oui, oui.
C'est à vous, ces valises?
Oui.
Enfin, non. Et là, d'un coup, il se barre en courant, en abandonnant son chariot et ses valises. Le couple s'approche, évidemment. Venez, on va faire comme eux. On a bien envie de savoir ce qu'il y a dans ces valises. Oh mon Dieu! Un cadavre! Un cadavre humain découpé en morceaux. Une boucherie! La police arrive tout de suite. Le commissaire Ange Mancini, une vedette du 36 quai des Orfèvres. Dans chacune des valises, les morceaux de corps sont enveloppés dans des chiffons. À vue d'œil, dans la première valise, il y a le buste d'une femme, mais il manque les seins. Et dans l'autre, il y a les bras, les jambes et la tête, enfin... Pas toute la tête, puisqu'il manque les lèvres et le nez. Les policiers embarquent le tout, ils l'emportent à l'Institut médico-légal. L'affaire est maintenant dans les mains du légiste, à lui de reconstituer le puzzle. Alors voilà ce qui est écrit dans son rapport. La victime est une femme blanche, entre 25 et 30 ans. Elle mesurait 1,62 m. Étonnant, sur son cadavre, il manque de la chair un peu partout, notamment sur les fesses. Les os, les jambes et la colonne vertébrale au niveau de la nuque ont été sciés. La dame a été tuée d'une balle de 22 longs rifles dans la tête, tirée à bout portant. Et par ailleurs, l'un de ses pieds a été traversé par un objet pointu. On pense à un clou, comme dans une crucifixion. Enfin, ça c'est terrible, il y a eu des relations sexuelles post-mortem. Autrement dit, le cadavre a été violé après la mort. Voilà ce que peut dire le légiste. Et maintenant, il faut tenter de mettre un nom. Et sur la morte, et sur le petit monsieur aux deux grosses valises. Et donc un appel à témoins est lancé dans la presse. On cherche un Asiatique, tout petit, très maigre, avec le visage grêlé comme par une varicelle mal soignée. Et rapidement, des gens se manifestent. Un chauffeur de taxi se souvient d'avoir chargé un Chinois rue Erlanger dans le 16e. « Ah ben si, je me souviens !» Il avait deux valises qui pesaient un âne mort et un caddie de supermarché. Et ce qui m'a surpris, c'est quand il m'a demandé de l'amener au bois de Boulogne. Normalement, un Chinois avec deux valises... Ça va à la gare ou à l'aéroport? Ah ben non. Celui-là, il voulait aller au bois de Boulogne. Et vous l'avez amené au bois de Boulogne? Ben non. Finalement, il m'a demandé de le ramener chez lui, avec ses deux valises. Une femme aussi se manifeste, qui habite à la même adresse que l'endroit où ce taxi a chargé le Chinois. 10 rue Erlanger, dans le 16e. Et elle dit qu'elle a entendu des bruits étranges en bas de chez elle, comme si on tirait un chariot. Et donc les policiers vont droit rue Erlanger, au numéro 10. et il toque chez la concierge.
Bonjour madame, on est de la police. Dites-moi, il y a un Asiatique dans l'immeuble ?
Ah ben oui, Monsieur Sagawa,
un jeune japonais.
Oh, il est très discret, hein, et très poli. Il n'a jamais posé aucun problème.
Très discret et très poli ? Rien que ça, ça me met la puce à l'oreille. Et donc on va l'attendre, ce monsieur Sagawa.
Tiens, le voilà qui arrive, en taxi.
Dès qu'il ouvre la porte, les policiers se jettent sur lui. Et ils ont du mal à lui passer les menottes, figurez-vous. Ses mains sont si petites qu'elles passent à travers. Mais il n'oppose aucune résistance.
Comment vous m'avez trouvé ?
Par le taxi, monsieur.
Ah, le taxi, oui, bien sûr. Vous êtes là parce que j'ai tué mon ami René, n'est-ce pas ?
On ne lui a rien demandé. Il y va tout seul. Et ils sont là pour ça, en effet. Renseignement pris, ce petit monsieur s'appelle Issei Sagawa. Il a 32 ans, il est étudiant à la Sorbonne où il prépare une thèse de littérature comparée. Et puisqu'on est devant chez lui, entrons. Les policiers entrent. Dans la cuisine, il y a un évier et dessous un petit frigo. Ils ouvrent le frigo. Waouh ! Sur les étagères du frigo, il y a une dizaine d'assiettes en carton, couvertes de sel au frais. Et dans chacune de ces assiettes, il y a des morceaux de viande. Et il y a une assiette qui attire tout de suite le regard, parce qu'elle est entamée. Dans cette assiette, il y a des petits pois, il y a de la moutarde. Et au milieu, il y a un nichon. C'est de la viande humaine, tout ça. Et en tout, il y en a pour 6 kilos, sans compter les restes dans la poêle, sur la cuisinière. Dans l'appartement de cet Issei Sagawa, les policiers trouvent les papiers d'identité d'une jeune néerlandaise qui s'appelle René Hartvelt et qui a 25 ans. Ça serait donc elle, dans la valise et dans le frigo. Et puis dans un coin, une carabine 22 long rifle, et puis un appareil photo qui contient une pellicule. Cette pellicule, on la développe, elle révèle 39 clichés du dépeçage de la morte. On trouve aussi une cassette audio sur laquelle est enregistrée la voix de René Hartvelt. Et enfin, une shampouineuse qui a manifestement servi à nettoyer l'appartement. Et puis j'allais oublier, sur une table, il y a un numéro de Charlie Hebdo, un vieux numéro de 1979, avec un dessin qui représente un cuisinier en train de découper les fesses d'une jeune femme, et dont le titre est « Le cul rôti aux herbes de Provence ». On est chez un cinglé, un tordu, un barjot. Ça saute aux yeux. Et voilà donc le petit japonais en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. J'insiste sur le gabarit, hein, parce que ça n'est pas vraiment l'image qu'on se fait d'un ogre. 1m52 pour 35 kilos, avec une grosse tête disproportionnée. Bref, l'inspecteur Poinas et le commissaire Foll entament l'interrogatoire le plus surréaliste de leur carrière. Et ils n'ont pas besoin de sortir la machine à baffe, hein. Il parle très bien français, il est intelligent, et il y va tout droit. Il parle, on dirait qu'il a plaisir à raconter son crime.
C'est dommage, hein. Si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez jamais retrouvé.
Si on commençait par le début, monsieur Sagawa, comment l'avez-vous connue, cette jeune femme ?
Je l'ai connue à la Sorbonne. Elle est étudiante comme moi, en littérature comparée. Vous savez, j'ai toujours fantasmé sur les occidentales. Disons que je l'ai trouvée attirante. Et puis les autres, voyez-vous, elles ne me parlaient pas. Alors qu'elle, oui. Et un jour, elle m'a invité à dîner avec d'autres étudiantes, le quartier latin. Pas en tête à tête, hein. Il y avait d'autres copains. Ça a été la plus belle soirée de ma vie, oui. Et elle, je crois qu'elle m'a trouvé amusant. Et moi, j'ai senti le souffle du destin, voyez-vous.
Il en est donc tombé amoureux.
Je l'ai mangé par amour, vous savez. Je voulais pas la tuer, mais... pour manger ses fesses, hein? Il n'y avait pas d'autre moyen.
Pour l'attirer dans son appartement, il a prétexté un devoir de littérature sur la poésie allemande. Comme elle parlait allemand, il lui a demandé de venir lire quelques poèmes. Il a cherché à la séduire. Il s'est fait, comme il dit, un peu pressant. Elle a éclaté de rire. Elle l'a envoyé promener.
Vous comprenez ça? Elle m'a humilié. Si elle avait cédé, je ne l'aurais pas tué.
Il raconte qu'il a choisi un poème allemand qui parlait de la mort. Il lui a dit de s'asseoir à son bureau. Elle lui tournait le dos. Il a pris la carabine. Et il lui a tiré une balle dans la nuque. Et les policiers ont un enregistrement de cette scène, la cassette audio qu'ils ont trouvée chez lui. On entend René lire un poème, puis une détonation, et le bruit d'un corps qui tombe sur le sol. Ensuite, il a voulu manger un bout de ses fesses. Il l'a déshabillé. Il l'a allongé sur le ventre. Il est allé chercher un couteau. Il espérait tomber directement sur de la chair. Rouge.
Malheureusement, voyez-vous, je ne connais rien à l'anatomie. Et je suis tombé sur une grosse couche de graisse jaune. Comme du maïs. Ça n'en finissait pas. J'avais beau découper, rien ne venait. Mon couteau n'était pas assez long.
Et après ? Qu'avez-vous fait ?
Après, je lui ai fait l'amour. Mais elle avait ses règles. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Ça m'a dégoûté, le sang.
Ah ! Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Ça l'a dégoûté, le sang. Et il raconte tout ça avec un détachement incroyable. On est chez les fous. On est chez les fous ! Il a gardé le corps dans sa baignoire pendant 2 jours, le temps de le dépecer morceau par morceau. Et ça, les policiers peuvent très bien se le représenter parce qu'ils ont des photos. Et lui, il n'est pas gêné de commenter tout ça, ni de raconter ses fantasmes. Comment depuis tout petit, il a envie de manger de la chair humaine. D'où vous vient, d'après vous, monsieur Sagawa, ce goût pour la chair humaine?
De ma petite enfance, je pense. Quand je suis né, je pesais 1,5 kg. Mon père m'a toujours dit que je tenais dans la paume de la main. À ma naissance, il y a eu un problème. Je ne respirais plus. Il a fallu me faire un massage cardiaque. J'ai mis 20 minutes avant de pousser mon premier cri. Et après, comme j'étais rachitique, ma mère n'a eu qu'une obsession, me gaver. Elle me nourrissait au sein. Je pense que c'est de là que me vient ce goût pour les seins.
Non seulement il nous livre des aveux détaillés, mais en plus cadeau, il nous offre sa psychanalyse de bazar.
L'amour, vous savez, c'est une gamme montante de plaisir. D'abord, admirer la beauté de l'autre, puis la toucher, puis avec le baiser, avoir une petite idée de son goût, et enfin la manger pour vraiment la connaître. Vous dites bien en français d'une fille qu'elle est jolie à croquer, n'est-ce pas?
À ce moment-là, le commissaire Foll doit lui expliquer qu'en français, croquer, ça veut dire aussi dessiner.
Ah bon?
Il a l'air déçu. Il l'aimait bien, cette expression française. Dans la baignoire, au bout de 2 jours, ça commence à crognuter. Il a beau arroser de parfum, il réalise qu'il ne pourra pas manger le corps en entier. Et donc il faut qu'il s'en débarrasse. Il va donc aux prises uniques du coin, acheter 2 grandes valises, des sacs poubelles et des couteaux. Il loue aussi un appareil pour nettoyer la moquette. Et avec beaucoup de rationalité, il prend les clés de René dans son sac et il va chez elle récupérer les lettres qu'il lui a écrites, pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Et d'où vous vient cette idée, monsieur Sagawa, d'aller vous débarrasser des valises au bois de Boulogne?
Ah, je connais. J'y vais souvent. Je fréquente des prostituées là-bas. Un jour, j'en ai payé une pour qu'elle me laisse lui mordre les fesses. Hein. Elle n'a pas voulu.
Après ses aveux, Sagawa est présenté à un jeune juge qui s'appelle Jean-Louis Bruguière, futur star de l'antiterrorisme, qui l'envoie tout droit à la prison de la santé et qui désigne 3 experts psychiatres. Parce qu'il y a quand même toutes les chances pour que le petit japonais soit un grand fou. Là-dessus, le père Sagawa, qui est un gros industriel au Japon, débarque à Paris. Il prétend qu'il n'arrive pas à croire que son fils a fait ça. Tu parles ? En vérité, il n'est qu'à moitié surpris. Et ça, les policiers de la crime l'apprennent en allant enquêter au Japon. Son fiston n'est pas un débutant dans le cannibalisme. Il y a 10 ans, en 72, quand il était étudiant à Tokyo, le gamin était déjà obsédé par l'idée de manger une occidentale. Il a repéré près de chez lui une jeune Allemande, grande, blonde, avec un physique de mannequin. Un jour, il l'aperçut par une fenêtre entrouverte, qui dormait allongée sur son lit, à moitié nu. Il est allé chez lui prendre un couteau et un masque de Frankenstein. Il est entré par la fenêtre. Et là, l'Allemande s'est réveillée. Elle a hurlé. Comme elle était beaucoup plus forte que lui, elle est arrivée à le neutraliser. Mais elle a appelé la police. Et là, le papa est entré en action. Il a versé une grosse somme à la jeune fille qui a retiré sa plainte. Et donc, quand le père dit « Je n'arrive pas à croire que mon fils a fait ça », il nous raconte des sornettes. Il est parfaitement au courant des fantasmes anthropophages de son fiston. Et d'ailleurs, à l'époque, il l'avait envoyé voir un psychiatre qui avait conclu qu'Issei Sagawa était extrêmement dangereux. Mais en même temps, c'est très japonais comme attitude. Il faut sauver la face. Le fiston dira
« Bon, si mes parents acceptaient la vérité, ils n'auraient pas d'autre alternative que de se suicider. »
À l'occasion de leur voyage au Japon, le juge d'instruction et les policiers récupèrent le dossier médical du jeune Sagawa. Et on y apprend qu'à l'âge de 3 ans, Issei aurait contracté une encéphalite japonaise. C'est une maladie virale qui s'attaque au cerveau et qui laisse des séquelles neurologiques et psychiatriques indélébiles. Et tout ça vient nourrir le dossier qui est transmis aux 3 experts psychiatres chargés de statuer sur son cas. Si c'est un malade mental, il échappera à la justice. S'il n'est pas malade, il sera renvoyé devant la cour d'assises. Les 3 psychiatres passent plusieurs dizaines d'heures avec lui. Ce qui est assez rare, hein. En général, les psychiatres experts passent 2 heures, 4 heures avec leurs clients. Mais un oiseau pareil, évidemment, ils en ont profité. Dans une carrière même bien fournie, ça n'arrive pas tous les jours. Ils lui font passer un encéphalogramme qui révèle des anomalies, peut-être la trace de l'encéphalite japonaise. Et ils en arrivent à la conclusion que Sagawa n'est ni schizophrène, ni paranoïaque. Mais qu'en revanche, pour eux, il a une personnalité perverse, maniaque et égocentrique, avec un trouble sévère de l'affectivité et une instabilité psychique. Et je vous lis les dernières lignes de ce rapport. Elles sont déterminantes. La pulsion cannibalique a procédé d'une pulsion aliénante, ayant constitué un état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal. Le mot est lâché. Article 64, c'est un article qui a disparu aujourd'hui du Code pénal, mais qui disait à l'époque « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action. » Et donc, Issei Sagawa ne sera pas jugé. Il faut l'accepter, ça. Ça n'est pas facile, je sais, mais il faut l'accepter. C'est un malade mental. Juger un fou n'aurait aucun sens. Et le juge Bruguière n'a pas d'autre choix que de prononcer un non-lieu. Et le préfet de Paris ordonne son placement à l'hôpital psychiatrique Henri Collin, à Villejuif, dans une unité pour malades dangereux. Et évidemment, les parents de René sont furieux. Le problème des placements en hôpital psychiatrique,
c'est qu'il n'offre aucune garantie de durée, et on en a la preuve avec Issei Sagawa. En mai 1984, moins de 3 ans après le meurtre de René, il est relâché. Les psychiatres pensent qu'il sera mieux soigné chez lui, au Japon, dans sa langue maternelle, le japonais. Il faut dire que son père, aidé de son avocat, a fait un sacré lobbying. Il a même plaidé auprès du préfet qu'il n'y avait aucune raison pour que Sagawa vive aux frais du contribuable français. La mauvaise foi. Mais ça passe. Et voilà donc Issei Sagawa dans un avion pour Tokyo. Et à l'arrivée, vous n'allez pas le croire, il y a des dizaines de journalistes qui l'attendent. Son histoire a fait le tour du Japon. Là-bas, on l'appelle l'étudiant parisien. Et dans son genre, c'est une vedette. Dès sa descente d'avion, il est conduit dans un hôpital psychiatrique, mais c'est une mise en scène pour ne pas choquer l'opinion publique. Parce que savez-vous ce que concluent les psychiatres japonais ? Eh bien qu'il est normal, qu'il n'est absolument pas fou. La psychiatrie, quelle terrible science molle. Et puisqu'il n'est pas fou, eh bien il sort. Il n'a plus aucun compte à rendre à personne. Aucun. Au début, il se cache, il fait profil bas. Il a besoin de travailler, alors il cherche à donner des cours de français. Mais il a du mal à trouver des clients. Les gens se méfient quand même un peu. Et puis, un fait divers horrible éclate au Japon. Un étudiant enlève des enfants et les renvoie à leurs parents morceau par morceau. Et c'est là que les journaux japonais décident de faire appel à l'expertise de Sagawa. Il devient consultant en dépeçage, véridique, hein. Et lui, gonflé, déclare à la télé
« Ce type est véritablement cinglé, hein. Oh, le Japon actuel me donne des frissons. »
Je vous jure que je n'invente rien, je vous le jure. Et à partir de là, il devient une star de l'horreur. Je vous rassure, hein, beaucoup de Japonais s'insurgent, ils trouvent ça immoral, mais ils ne pèsent rien à côté de la télé japonaise. Car maintenant, Sagawa signe des chroniques sur le TF1 japonais. Et il écrit des livres qui se vendent comme des petits pains. Les titres sont d'un goût exquis. Paris des fleurs, Paris d'amour. L'illusion du cannibalisme. J'aimerais être mangé, etc., etc. Il fait aussi des conférences. Et il se met à peindre des nus de jeunes filles occidentales qu'il signe parfois d'un couteau et d'une fourchette. Et il fait aussi de la publicité pour un restaurant de viande. Il devient critique gastronomique pour un magazine. Passer les bornes, il n'y a plus de limites. Et cerise sur le gâteau, il tourne dans des films pornographiques qui ont pour décor les Pays-Bas, le pays de René, avec des canaux, des moulins et bien sûr des filles grandes, blondes, avec des couettes. Sagawa exploite son histoire jusqu'à la lie. Tout ça sans jamais exprimer ni excuse, ni regret, ni aucune compassion pour les parents et la famille de sa victime. En France, nous n'avons pas été exemplaires non plus. Le magazine Photo, par exemple, a publié 14 images volées de la perquisition et de l'autopsie du cadavre de René, probablement vendues par un policier. Des photos qui montrent les morceaux de chair dans les assiettes. Le magazine, tiré pour l'occasion à 200 000 exemplaires, s'est vendu comme des petits pains, jusqu'à ce qu'il soit interdit par la justice à la demande de la famille de René. Ce numéro d'époque est devenu collector sur eBay et sur Le Bon Coin. Aujourd'hui, Issei Sagawa vit retiré dans la banlieue de Tokyo. Le journaliste du Monde, Philippe Ponce, qui est allé le voir en 2006, décrit un monsieur charmant, passionné de littérature et de musique, qui vit dans un appartement impeccablement rangé, plein de poupées et d'animaux en peluche. Une bonbonnière, dit le journaliste, bercée par la musique de Mozart. Il est parfaitement libre de ses actes et de ses déplacements. Il n'est soumis à aucun contrôle d'aucune sorte. Il prétend que son obsession pour les jeunes occidentales est passée. Et désormais, les murs de sa chambre sont couverts de posters d'étudiantes japonaises. Pas sûr que ce soit plus rassurant. Mais surtout, il continue d'affirmer qu'il a envie de manger de la chair humaine. Dans une interview à la télévision allemande, il déclare
« D'une certaine façon, je regrette d'avoir tué René, mais d'une autre, j'ai bien fait, hein. Elle était tellement bonne.
J'ai écrit cette histoire à partir du livre de Patrick Duval, chez Stock, Le Chaponnet Cannibale.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.